Dans la première partie, on a vu que nous sommes morts, ensevelis, ressuscités avec Christ. Nous avons vu deux images qui nous parlent de cela et d'une manière particulière, cette image de l'arbre, qui est une même plante. Nous avons été identifiés avec Christ. Et j'aimerais rappeler que ce qui est vrai de lui est vrai de nous. Je suis mort avec Christ, je suis enseveli avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Maintenant, nous sommes invités à aller un peu plus loin et dans une deuxième partie, du verset 6 au verset 14, eh bien, nous allons voir comment maintenant je suis invité à vivre ce que je suis? Et j'aimerais simplement rappeler trois verbes que nous allons suivre au travers de ce passage. Le premier, c'est savoir. Le deuxième, c'est croire. Et puis le troisième, c'est choisir. Et nous allons suivre ces verbes pour essayer de comprendre comment je peux vivre ce que le Seigneur a voulu que je sois? Ces trois aspects de cette démarche, eh bien, savoir, c'est d'abord les versets 6 et 7, et on verra ce que je dois savoir. Croire, versets 8 à 11, et puis choisir, versets 12 à 14. Mais dans ce passage, nous allons découvrir deux termes qui peut-être mérite une certaine explication. D'abord, le terme du vieil homme. Il nous est parlé de notre vieil homme et qu'est-ce que notre vieil homme? Notre vieil homme, c'est ce que j'étais en Adam. Ma première manière de vivre, d'après Éphésiens 4, 22. Elle était sous l'obligation ou la contrainte du péché, mais ce vieil homme a été crucifié avec Christ, on va le voir. Et j'ai à m'en dépouiller, selon Colossiens 3, verset 9, afin de revêtir le nouvel homme. Un autre terme, c'est le corps du péché. Certains ont pensé que s'il était parlé de corps de péché, c'était le corps ou la réalité du péché, la machinerie. Mais pourquoi ce terme est-il utilisé? Et on va trouver le mot corps plusieurs fois au travers de l'épître, déjà au verset 12, et on voit que le péché peut y régner. Le corps est appelé le corps de péché, le corps mortel, le corps qui sera vivifié. Et dans Philippiens 3, il nous est même dit que ce corps sera transformé en la conformité du corps de sa gloire. Alors, savoir. Les versets 6 et 7 nous disent, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, dégagé, délié, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Sachant, Dieu veut nous faire découvrir son projet et nous amener à des assurances, savoir. Il veut nous faire comprendre sa pensée, son plan envers nous. Et ce que nous sommes appelés à savoir, comme nous sommes aussi appelés à savoir, par exemple, que nous avons la vie éternelle, c'est des assurances. Que nous dit-il? Il nous dit, mon vieil homme a été crucifié avec lui. Si mon vieil homme a été crucifié avec lui, eh bien, c'est que c'est la réalité qu'on a vue tout à l'heure, il est mort et enseveli, mais ce vieil homme, qui est en fait ce que j'étais en Adam, il a été ainsi condamné. Et s'il a été condamné avec lui, c'est qu'il a été condamné sur la croix. Et Dieu en a fini avec mon vieil homme quand Christ est mort il y a 2000 ans. Et j'entre au bénéfice de cette délivrance par la foi. Vous serez étonné et vous me direz, mais enfin, comment est-ce que Dieu peut en avoir fini avec mon vieil homme il y a 2000 ans? Puisque Christ a été crucifié il y a 2000 ans et que mon vieil homme a été crucifié avec lui. Je vous poserai la question, est-ce que Christ est mort pour vos péchés il y a 2000 ans? Et je sais que chacun répondra oui. Quand il est mort, combien de péchés aviez-vous déjà commis? Il est évident que c'est zéro. Et pourtant, Dieu a condamné tous mes péchés sur la croix et Christ en a porté la condamnation il y a 2000 ans. Eh bien, de la même manière que Christ a porté cette condamnation de tous mes péchés il y a 2000 ans, Dieu a vu mon vieil homme, en a terminé avec mon vieil homme sur la croix il y a 2000 ans. Mais c'est au moment où je crois que j'entre au bénéfice de cette œuvre et de cette identification. Qui croit au Fils, dit Jean 3, 36, a la vie éternelle, c'est par la foi, et puis qui désobéit ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Et il nous est dit, pour que le corps du péché soit délié. Le corps du péché, eh bien, c'est ce corps dont nous avons parlé, ce corps mortel qui sera, par la grâce de Dieu, transformé en un corps glorieux. Et ce corps, c'est l'interface entre moi et notre environnement. Alors, il y a cette relation de cause à effet. Puisque le vieil homme a été crucifié, eh bien, il y a un verbe qui est utilisé, c'est le vieil homme a été crucifié et il est dit afin que le corps du péché soit rendu impuissant ou soit annulé. Mais le verbe qui est utilisé, c'est katargeo et dans la majorité des occurrences, il semble que ce verbe pourrait être traduit par abolir. Ici, cette traduction paraît peu appropriée. Mais en Romains 7, au verset 2 et même au verset 6, ce même verbe est traduit par dégager ou délier. On peut dire aussi désamorcer ou libérer. Est-ce qu'une telle traduction ne serait pas cohérente et une clé à la compréhension de notre passage? Imaginez quelqu'un qui est lié. Il est lié avec son geôlier. Et voilà que le geôlier meurt. Eh bien, le geôlier n'a plus aucune force sur lui, plus aucune autorité sur lui, et en quelque sorte, il est libre. Il peut même prendre la clé qui tenait ses menottes pour les ouvrir. Le geôlier, on pourrait dire, c'est le vieil homme. Et puis, le prisonnier, c'est le corps de péché. Le vieil homme faisait de nous ses victimes et nous amenait là où il voulait. Mais comme ce vieil homme a été crucifié, eh bien maintenant, j'en suis libéré. Et j'ai la possibilité de vivre libre. On a souvent dit d'un prisonnier qu'il est affranchi quand il est libre. Eh bien, libre veut dire affranchir. Eh bien, je suis affranchi ou je suis libre. Mon corps, dans lequel je peux toujours pécher, n'est plus contraint par l'obligation de pécher que représentait le vieil homme. Je suis libéré. Et il est ajouté dans notre texte pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous avons changé de statut. L'esclave du péché que j'étais est libéré de cette obligation parce que celui qui me contraignait, mon vieil homme, a été crucifié. Il est ajouté même au verset 7, au verset suivant, que je suis libéré, selon les traductions, libéré ou quitte du péché ou justifié du péché. Celui qui est mort est libre du péché, dit NEG. De fait, l'original voudrait peut-être dire plus une question juridique, mais est-ce qu'il n'en est pas ainsi? Quand quelqu'un est mort, eh bien, il est libre de tout son environnement et de toutes les pressions qu'on peut opérer sur lui. Un exemple simple, peut-être puéril, un ivrogne meurt et son cadavre est là. Vous pouvez aller lui présenter un verre, il n'aura pas de réaction. Il est quitte de ce qui l'a tenu enchaîné peut-être toute sa vie. Eh bien, nous sommes quittes du péché, nous sommes libres du péché et nous ne sommes plus contraints par le vieil homme. Il s'est dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort pour le péché. C'est pour le péché qu'il est mort. Et une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous ou tenez-vous comme mort au péché et comme vivant à Dieu en Jésus-Christ. Non seulement je dois savoir que mon vieil homme a été crucifié et que je suis libéré, mais maintenant je dois croire que cela a un effet dans ma vie. Il nous est dit ici, nous croyons que nous vivrons avec lui. De nouveau un pluriel. Mais ce pluriel n'est-il pas là pour simplement souligner la séquence des choses? Je suis mort, mais c'est pour vivre. Et parce que je suis mort, je crois que je vis en lui. C'est un acte de foi. Je veux vivre et je peux vivre la vraie vie. Christ est ressuscité et il n'a plus rien à faire avec la mort. Il en a anéanti le pouvoir de façon définitive. Il est devenu péché pour nous. Maintenant, nous sommes devenus justice de Dieu en lui. La résurrection de Christ, maintenant, est le gage de notre libération. Il vit à Dieu, il vit pour Dieu, eh bien, il est tout pour lui. Et de la même manière que il n'a plus rien à faire et il est quitte du péché, nous pouvons voir que nous aussi, ayant été unis ou assimilés ou identifiés à lui, eh bien, nous pouvons nous tenir pour mort au péché, pour vivant à Dieu et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mort au péché, c'est un fait. Et je dois le savoir, je dois le croire. Christ a été crucifié pour moi, j'ai été crucifié avec lui. Éphésiens 4, 8. En traduction littérale, nous rappelle la victoire. Christ, Il a emmené captive la captivité. Celui qui nous retenait captifs a été vaincu. Et mon vieil homme par lequel il m'instrumentait a été crucifié. C'est vrai que nous sommes encore dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais dans le monde, comme le dit le Seigneur dans sa prière. Alors je ne suis plus obligé de pécher, mais je suis encore dans ce monde avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et je suis encore dans un combat. C'est vrai que le Seigneur ne nous a pas pris au moment de notre conversion pour nous emmener au ciel. Il nous laisse sur la terre. Et sur la terre, eh bien, nous sommes là non plus dans le vieil homme, puisqu'il a été crucifié, ce vieil homme qui était contraint et qui nous contraignait au péché. Mais nous sommes encore dans le corps. Et dans ce corps, eh bien, je peux avoir des réactions à mon entourage. Alors, 2 Corinthiens 10 nous parle de ce combat et même de cette guerre. Et il nous dit, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mort au péché? Oui, mais il ne faut pas construire des forteresses, ces murailles derrière lesquelles nous nous réfugions et nous dissimulons nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos intentions. Ces forteresses, elles peuvent avoir nom, doute au lieu de la foi, haine au lieu du pardon, mensonge au lieu de la vérité, médisance au lieu de la réconciliation, orgueil au lieu de l'humilité, murmure au lieu de la reconnaissance, amertume au lieu de la satisfaction, cupidité au lieu du contentement, corruption au lieu de l'intégrité, permissivité au lieu de la pureté. Je suis mort au péché. Je suis mort avec Christ. Je le suis aussi à ces forteresses. Ce sont les œuvres de la chair, nous dit Galates 5, verset 19. Et la chair convoite contre l'esprit. Alors, Galates nous étonne, au chapitre 5 aussi et au verset 24, il nous dit que nous avons à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Vous me direz, mais comment est-ce possible? On vient de voir que le vieil homme a été crucifié avec Christ, qu'il a été crucifié il y a 2000 ans, que Dieu en a terminé avec ce vieil homme il y a 2000 ans. Mais comment alors maintenant dois-je crucifier la chair? Eh bien, c'est vrai que je ne suis plus contraint par le péché, mais ma chair, on peut dire cette réalité humaine dans laquelle je suis, peut toujours réagir. Et crucifier la chair, eh bien, c'est la tenir pour morte, c'est la tenir dans cette position où elle doit être. Et 2 Corinthiens 4, verset 10 nous le rappelle. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort ou le mourir de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Colossiens 3, verset 5 nous dit mortifier ou nécroser vos membres. Alors, nous avons à réaliser que la vie chrétienne doit se dérouler dans son environnement et qu'il y a toujours la possibilité des tentations, qu'il y a donc un combat, une guerre même, comme nous dit le passage. Mais pour vivre la victoire, réaliser la mort de Christ et puis nécroser nos membres, et pour cela, eh bien, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le chapitre 8 va nous y ramener. Non seulement nous sommes morts, nous avons à nous tenir pour morts au péché, à croire que vraiment la victoire m'est acquise, Christ l'a acquise et il veut me la donner, mais j'ai à me tenir maintenant comme vivant à Dieu. Entrer avec lui dans une relation, une intimité, comme celle d'un père avec son fils ou sa fille. Et puis, entrer dans tout le plan qu'il a pour chacun d'entre nous et pour sa gloire. Vivant à Dieu, vivant pour Dieu, l'adorer. Alors, réaliser ces deux termes, eh bien, c'est vrai que je me sens dépassé. Et seul, eh bien, je ne le pourrais pas. Mais un Jean nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur Jésus lui-même veut venir vivre cette vie de résurrection en moi. Alors, on se souvient de ce passage de Galates 2, verset 20, qui nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, on l'a vu. Et si je vis, ce n'est maintenant plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et dans Philippiens 1, 21, Paul peut dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Vivant, vous tenant ou croyant que vous êtes mort avec lui, que vous êtes vivant à Dieu, mais que vous l'êtes en Jésus-Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et permettez l'illustration de cette image qui est celle de la métamorphose. Quand la chenille rampe par terre, on peut dire qu'elle est laide et qu'elle n'est pas agile. Mais un jour, elle s'accroche à une tige et elle tisse un cocon. Elle va devenir chrysalide. Et de cette chrysalide va sortir non pas une chenille, mais un papillon chatoyant, agile, qui va pouvoir s'élever dans les airs, qui n'est plus contraint par ce à quoi la chenille était contrainte quand elle rampait, qui est magnifique alors que la chenille était laide. Eh bien, est-ce qu'il n'en est pas de nous comme cette métamorphose? Nous étions morts dans notre péché. Mais maintenant, nous sommes vivants en Christ. Et nous pouvons nous élever, nous pouvons nous avancer, nous élancer et alors glorifier celui qui nous a donné la vie. Peut-être une chose, pour que je puisse vivre de l'avantage du papillon, de l'avantage de celui qui est né de nouveau, eh bien, il ne faut pas que je reste dans le cocon. Il faut que je sorte. Et parfois, on peut connaître ces choses, mais pas vraiment se les approprier. Une autre chose, quand je suis fatigué, il ne faut pas que je retourne à mon cocon. Et nous devons veiller. Une troisième chose, quand vous voyez le papillon et que vous vous adressez à lui, vous ne lui dites pas bonjour vieille chenille, Vous allez l'admirer et lui dire bonjour papillon. Eh bien, de la même manière, nous étions dans le vieil homme, maintenant nous sommes un nouvel homme en Christ. On a dit savoir. Savoir que mon vieil homme a été crucifié. Savoir maintenant que le corps du péché n'est plus contraint. Croire. Croire que maintenant je peux me tenir pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu en Jésus-Christ. Notre passage se poursuit. Que le péché donc ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous ou livrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Nous sommes appelés à une décision. Nous ne voulons pas retourner à ce que nous étions. Le péché, c'est manquer le but. Nous ne voulons pas manquer le but. N'obéissez pas à ses convoitises. Et le verset suivant nous le dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Il y a un choix. Se donner ou se livrer, eh bien, c'est en fait se mettre à la disposition du destinataire. On sait ce qu'est un camion qui vient faire une livraison. La marchandise est donnée et elle est maintenant à la disposition du destinataire qui en est en fait le propriétaire. Alors, nous sommes libres, mais comment voulons-nous utiliser notre liberté? Pour revenir à ce que nous étions, revenir au péché, nous laisser prendre par le péché, ou bien nous offrir à celui qui nous a libérés comme des instruments de justice. Puisque nous sommes sous la seigneurie de Christ, ne livrons pas nos membres et ce qu'ils manifestent, toutes nos actions, nos attitudes, nos pensées au péché, mais nous pouvons nous livrer pleinement, nous consacrer à Dieu. Si on va un peu plus loin dans cette même épître, au chapitre 12 et au verset 1er, il nous est dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Offrez-vous. Offrez-vous à Dieu comme un sacrifice. Il s'est sacrifié pour toi. Qu'es-tu prêt à faire pour lui? Et puis, s'offrir à lui, c'est se mettre à son entière disposition. Et il nous est dit que c'est un culte raisonnable. C'est un service qui lui est agréable. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, Il nous est dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Un choix. À qui voulons-nous nous livrer? Une décision, ne plus retourner à ce que nous étions. Mais il y a ce verset 14 qui nous dit encore, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché est sans autorité sur nous, mais parce que nous ne sommes plus sous la loi et ses obligations qui nous dépassent, nous sommes sous la grâce. Sous la grâce et son pouvoir, sa puissance, son influence, sa dynamique. C'est la grâce qui va régner. Nous sommes au bénéfice du plan de grâce de Dieu. Nous l'avons dit. La grâce est là, mais elle est là pour que nous vivions pour Dieu. Non pas que pour que nous péchions comme c'était l'interrogation du début. Ce n'est pas possible. Nous sommes morts avec Christ, mais nous sommes vivants avec lui. Nous sommes vivants en lui. C'est là la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous.
Oui, merci Pierre-Étienne pour cette deuxième partie. Donc, nous avons des questions et des remarques, notamment une remarque sur le baptême qui était le sujet de notre précédente partie de questions-réponses. Certains pensent que parce qu'ils ont été baptisés à la naissance, ils sont entrés dans la famille de Dieu et sont sauvés. Dans ce cas-là, le baptême s'apparenterait à un acte magique. Évidemment, ce qui n'est pas juste. Et ce qui est important, c'est la repentance et le pardon. Et suite à cela, ensuite, le baptême. Merci pour cette remarque, Evelyne. Nous avons une question qui est intéressante aussi sur le vieil homme. Est-ce qu'il disparaît? Ou est-ce qu'il est toujours en nous? Et le frère qui pose la question demande, est-ce qu'il a la possibilité de se réveiller en nous si nous n'obéissons pas et que nous ne nous soumettons pas à Dieu? Voilà une question intéressante sur le vieil homme. Est-ce qu'il est définitivement mort? Ou bien est-ce que il est comme placé en sourdine et pourrait se réveiller?
C'est très difficile de répondre ce qu'on pense. Il me semble que la seule réponse qu'on peut donner, c'est la réponse que la parole nous donne. Et que nous dit la parole au verset 6, sachant, c'est donc une assurance, que notre vieil homme a été crucifié, crucifié avec lui. Je ne vois pas comment la parole pourrait nous dire qu'il a été crucifié avec lui. Ça veut dire que Dieu en a réglé son compte il y a 2000 ans et que il pourrait être en sourdine. Il nous est même dit qu'il a été enseveli. Donc, quand il y a un ensevelissement, en principe, c'est quelque chose de définitif. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'il m'est dit que le vieil homme a été crucifié que je ne vais plus pécher, puisque je suis encore dans le monde. Et il y aura toute une problématique qui va être la problématique de la suite de notre passage. Je suis toujours dans ce corps ou dans lequel je peux pêcher. Mais je vois mal comment on pourrait dire que mon corps a été mis en sourdine. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Oui, que mon vieil homme, excusez-moi, que mon vieil homme a été en sourdine. Il a été. Par contre, la chair est là, et c'est pour ça qu'il est dit de la chair dans Galates que nous avons à crucifier la chair. Nous avons à la tenir dans cette position de mort. La chair, elle est là. Je suis encore dans la possibilité de pécher. Je peux réagir, répondre au péché, parce que je suis dans la chair. Mais maintenant, ne marchons pas selon la chair, mais marchons selon l'esprit. Et c'est dans la mesure où je marche selon l'esprit que, eh bien, la chair sera mise de côté et on peut dire nécrosée, que les membres seront nécrosés.
Merci pour cette réponse concernant le vieil homme. On a une autre question concernant le verset 14. Le péché dans la darbie ne dominera pas sur vous. Dans la seconde, c'est le péché n'aura point de pouvoir. Donc, on est au futur. Et la question, c'est ce futur. Est-ce que, il se réalise déjà sur la terre ou au ciel?
Alors, c'est un futur qu'on a trouvé déjà deux autres fois. Hein, et c'est vrai qu'au ciel, ben, ce sera parfait. Mais il me semble quand même que ce qui est dit ici, c'est pour que nous marchions en nouveauté de vie. Ce n'est pas attendre le ciel pour marcher en nouveauté de vie. Tout l'objectif, en fait, est au présent. Et j'ai essayé de le dire, mais peut-être avec difficulté, mais il me semble que c'est plus la séquence. Je suis mort pour pouvoir. Et il y a un futur par rapport à cet acte passé. Et c'est Lloyd Jones qui dit c'est un futur, mais qui a un sens présent, qui a une valeur présente.
Merci, Pierre-Étienne. Sylvain Combes nous mentionne une citation de Luther. J'ai voulu noyer mon vieil homme, mais je me suis aperçu que le bougre avait appris à nager. Et puis il commente, pas évident pour le chrétien parfois, même connaissant sa position, de triompher. Ne pourra-t-on jamais donner le coup de grâce au vieil homme sur cette terre? Point d'interrogation. Bon, tu as répondu que, de ton point de vue, le vieil homme était crucifié, c'est ce que la Bible affirmait. Par contre, il existait encore la chair que nous
À
avions
pécher.
à crucifier. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Bien, je vais laisser la parole à Gilles qui va conclure notre soirée en le remerciant d'avoir été avec nous.
Bien, merci beaucoup Nathanaël et merci Pierre-Étienne. Ça me rappelle nos discussions au Congo sur le vieil homme et la chair, etc. Et ça m'a rappelé aussi il y a 32 ans quand je travaillais dans une usine de fabrication de matériaux de construction ici au Québec sur la pause du repas du midi. Donc, j'avais l'occasion de prendre un temps seul. J'étais au bout là, de ce qu'on appelait la cour à bois, c'est-à-dire là où on stockait, on empilait les matériaux. J'étais assis littéralement sur une pile de bois de construction et j'avais ce verset devant moi, ou en fait ce passage de Romains 6 devant moi. J'avais 22 ans et j'étais frappé par le contraste entre le fait de cette déclaration qui dit « Vous êtes mort au péché » et dans le même chapitre « Regardez-vous ou considérez-vous comme mort au péché ». Alors, on l'est ou on doit, on l'est ou on ne l'est pas, est-ce qu'on doit se considérer ou quoi, comment concilier tout ça? Et c'est vrai que je me rappelle à quel point j'étais confus devant cette situation. Je vous dirais que aujourd'hui, 32 ans plus tard, c'est un passage qui pose toujours des difficultés de compréhension. On n'est pas absolument certain à 100%, mais j'ai l'impression que Paul a voulu souligner l'importance de comprendre et de reconnaître de plus en plus notre identité en Christ maintenant. Voici ce que nous sommes. Voici ce que nous sommes de façon claire et définitive. Et voici, quand on le réalise dans notre vie de tous les jours, eh bien, on finit par le vivre. Cette réalité d'être mort au péché, d'être libéré ou délivré. Alors, bien entendu, il y a dans tout l'aspect pratique une responsabilité qui nous appartient dans tout cela, celle de ne pas entretenir les choses de la chair ou du péché, etc. Mais quelle grande réalité pour nous de ne plus être obligés de pécher, d'être délivrés, libérés et d'avoir cette espérance d'être un jour, comme Pierre-Étienne l'a bien dit, totalement débarrassé même de la présence du péché. Quelle espérance pour le croyant. Alors, merci beaucoup, Pierre-Étienne. Et puis, nous avons hâte à la suite de cette étude, de ces chapitres-là. Permettez-moi une brève prière pour conclure. Seigneur notre Dieu, donne-nous de réaliser notre identité en Christ. Nous avons vu cette expression typique à la version second, être une seule plante avec lui, Seigneur, qui montre cette unité avec toi, Seigneur, et puis c'est tout un privilège pour nous qui étions des pécheurs perdus. Donne-nous maintenant de vivre comme des saints, des enfants de Dieu qui t'appartiennent d'une façon totalement différente de ce que nous étions avant. Tu nous as donné l'Esprit Saint, Seigneur, tu nous as donné ta parole, les frères et sœurs, pour nous y exhorter. Alors, Seigneur, que nos vies puissent te glorifier en toutes choses. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors,
Amen.
merci beaucoup. Alors, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette formation Biblos. Au revoir.